Alors oui, il y a la dénonciation effectivement de l'administration, mais c'est aussi la dénonciation de l'État-providence, de l'État social. Hein, et donc, aux yeux de beaucoup de libertariens, le grand défaut de la démocratie, c'est qu'elle favorise cet État social de par les revendications d'une partie de la population. Quant à au terme d'élite que vous avez employé, Donald Trump, comme tout bon populiste, dresse effectivement le peuple, il prétend parler au nom du peuple, contre cette élite. Et ça, c'est un aspect que l'on retrouve aussi chez certains libertariens. En particulier, ça a été théorisé dans les années 80-90 par ce fameux Murray Rothbard, qui, dans une stratégie quasi léniniste, a considéré que le seul moyen d'atteindre les classes moyennes et de ne pas rester cantonné dans le milieu intellectuel. Jusque-là, le libertarianisme, c'était essentiellement une affaire d'universitaires. Hein. Et que donc, pour atteindre les masses, et en particulier les classes moyennes, il fallait essayer de les convaincre qu'ils étaient les victimes de ce qu'il appelle les hommes de l'État, c'est-à-dire les politiciens.
Donc c'est là où le libertarianisme rejoint le populisme, et c'est pour, voilà. partie la matrice Trump.
C'est là où effectivement cette alliance contre nature atteint un certain équilibre, mais qui est un équilibre assez instable finalement.
Et puis un truc de télé finalement à la Trump, quoi. Enfin,
voilà, pour le dire. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Trump de ce point de vue, parce que sa grande force, ça a quand même été de coaliser des forces idéologiques extrêmement différentes. Voilà. Et je pense que l'une des explications de la perpétuelle fuite en avant du trumpisme, c'est que c'est comme quand on fait du vélo, c'est-à-dire que si on s'arrête, on tombe. Et donc, je pense qu'il y a...
C'est une bicyclette qui roule, pour reprendre l'image de Mao Zedong.
De mouvement perpétuel, eh bien, les contradictions apparaissent moins flagrantes. Et donc, du coup, c'est une manière de maintenir à peu près en équilibre.
Mais alors, ça c'est vrai, ça fait 4 mois et demi, 5 mois qu'il est à la Maison-Blanche, mais on voit tout de suite que la bicyclette s'arrête de rouler, notamment, et j'anticipe sur un article que vous publiez demain dans La Croix, mais que j'ai pu lire parce qu'il est déjà en ligne, qui s'appelle « Le populisme de Trump était incompatible avec le logiciel libertarien de Musk », d'où la rupture Musk-Trump, qui montre que ce bric-à-broc, il y a un moment, ça ne marche pas quand même.
Oui, même si dans le cas de Musk, en faire un libertarien, c'est discutable, parce que d'abord, Musk n'est pas un idéologue, et par ailleurs, dans le libertarianisme, il prend ce qui l'arrange. Hein. Par exemple, lorsqu'il a pris la tête de Twitter en 2022, il s'est proclamé défenseur de la liberté d'expression absolue, aussi parce que ça l'arrangeait financièrement.
Même chose pour ces entreprises qui bénéficient de subventions immenses de l'État, donc il n'y a plus grand-chose, ni d'anarchistes, ni de libertariens dans tout ça.
Absolument. Hein. Donc,
on n'est plus dans la critique de l'État, on prend l'État, quoi. On prend l'argent de l'État.
Le populisme de Trump ne fait aucun doute, autant le libertarianisme de Musk est par intermittence, on va dire. Hein.
Revenons à Curtis Yarvin avec vous sur le grand continent, Gilles Gressani. Vous avez publié dans ce numéro publié chez Gallimard, dirigé par Giuliano d'Ampoli, L'Empire de l'Ombre. C'est une version papier, pour le coup, livre du grand continent. Vous publiez un manifeste formaliste, l'un des textes théoriques de Curtis Yarvin.
Oui, qui est un texte qui paraît pas avec sa signature, qui est vraiment un texte.
Oui, sous pseudonyme.
Voilà, sous son pseudonyme, et qui fait partie d'une série de manifestes. Enfin, ce qui nous a un peu frappé.
Ça s'appelle Mansus Moldbug.
Absolument. En fait, une des choses qui nous a beaucoup frappé en constituant ce dossier central du volume qui est aujourd'hui en librairie du Grand Continent, c'était qu'au fond, il y a, pour essayer de comprendre ce choc trumpiste Trump 2.0, en fait, ce côté un peu révolution culturelle, contre-révolution qui s'abat sur le monde, en fait, on peut retrouver une série de manifestes. Et c'est un des gestes classiques du XXe siècle, à la fois esthétique, à la fois politique. C'est quand on veut faire une révolution, très souvent, on écrit un manifeste, donc on essaie un peu de le recueillir, le mettre un à côté à l'autre, aussi pour voir ce qu'ils ont de décalage par rapport au monde dans lequel nous trouvons et à la trajectoire que Donald Trump est en train de porter. Et je pense que ce manifeste-là est à lire, évidemment, en écho avec l'entretien, mais surtout un lien avec un autre manifeste important, qui est celui de Peter Thiel, qui est vraiment la figure centrale pour essayer de comprendre cette nouvelle constellation, cette alliance entre la Silicon Valley et le pouvoir trumpiste.
Alors là, on n'est pas sur un intello, c'est le fondateur, cofondateur de PayPal, qui a travaillé énormément avec Elon Musk, fan de René Girard,
Qui revendique,
qui a été son prof, je crois, à Stanford, puisque le français y était. Donc tout ce qu'on connaît, le bouc émissaire, la théorie du désir mimétique, etc. D'ailleurs, je signale que Peter Thiel, c'est pas très connu, mais bon, bien sûr, il est homosexuel et c'est public, mais il finance notamment des prêtres homosexuels un peu partout dans le monde. Comme quoi, les gens sont beaucoup plus complexes que ce qu'on dit. On n'est pas sur une extrême droite, par exemple, homophobe, comme certains le disent. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le cas pour Peter Thiel. Comment vous faites le lien, Peter Thiel, avec justement Curtis Irving?
Peter Thiel, c'est d'abord l'imprésario. C'est la personne qui a financé, en réalité, plusieurs de ces initiatives qui ont effectivement porté la Silicon Valley à embrasser de plus en plus une idée qui est énoncée, dont Curtis Irving est un des plus importants théoriciens, qui est celle de lumière noire, le Dark Enlightenment, qui a, au fond, essaye de proposer de désarticuler le progrès social du progrès technique.
Expliquez-nous ça, parce que Dark Enlightenment, on ne l'a peut-être pas compris, c'est donc au fond, la négation des lumières, c'est-à-dire
des lumières
de la pensée du XVIIIe siècle.
Pas tant que des lumières.
De la rationalité, etc.
Mais de l'articulation entre le progrès social et le progrès technique. Au fond, il y a quelque part dans cette mouvance, et c'est une chose qui se retrouve aussi très profondément chez Curtis Irving, l'idée que, au fond, la démocratie empêche, par ses procédures, par ses règles, par son idéologie, une innovation technique qui serait sans limite et sans normes. Et donc qui, par exemple, pourrait remettre en question la définition de l'humain, les droits de l'humain, mais aussi embrasser d'une manière beaucoup plus radicale des notions comme la science raciste, le génétique, etc. Et ça, c'est des éléments qui sont très présents. Parfois, ils sont énoncés d'une manière un peu cachée, parce qu'effectivement, c'est parfois des mots qui pèsent très lourd, mais qu'on retrouve chez Curtis Irving, qu'on retrouve chez Peter Thiel, cette idée, au fond, d'un monde dont le futur serait très précis, un découplage définitif, avec des hommes qui ont une intelligence hors norme, qui peuvent dominer la science, le futur, et donc les autres hommes qui, eux, n'ont pas un accès à des moyens intellectifs ou d'argent qui sont comparables. Et donc là, c'est vraiment la sortie, si vous voulez, de l'histoire des Lumières, mais non pas de l'histoire de la technique, non pas de l'histoire de la science. Ce n'est pas des décroissants, c'est tout le contraire. C'est un accélérationnisme qui s'abreuve d'une forme réactionnaire.
Puisqu'ils veulent aller sur Mars, etc.
Et donc c'est pour ça, dans le continent, on avait essayé de définir cela une accélération réactionnaire, pour essayer vraiment de désigner cette double dynamique. Et si c'est vrai qu'Elon Musk est parti aujourd'hui, Peter Thiel est plus que jamais là. Et le projet de configuration d'un fichier unique dont on parle avec Curtis Irving dans l'entretien, qui ressemble de plus en plus en réalité à la manière dans laquelle le Parti communiste chinois gère sa population, une connaissance granulaire, précise de la subjectivité de chacun, par une intégration entre les données qui sont celles des GAFAM et des grands ministères, eh bien, elle continue aujourd'hui sous Trump, et c'est vraiment tout le contraire, si vous voulez, d'un projet classique libertarien, parce qu'il s'agit de donner une puissance d'action sans égale.
Phénoménal, ouais.
Au président des États-Unis.
Emmanuel Paquette.
Deux questions en une, peut-être. La première, c'est que, bien avant tous ces influenceurs, il y a eu quand même un auteur, une autrice, Ayn Rand, qui a sorti La Grève en 1957. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, c'est les grands entrepreneurs des États-Unis décident de faire grève face au poids de l'administration et face au poids des fonctionnaires qui ne fait que de l'enquiquiner, en gros, pour faire court. Et donc, en faisant grève, quand les milliardaires font grève, les entrepreneurs font grève, l'État s'écroule. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant qu'en réalité, le pouvoir, il n'est pas dans l'État, ce que vous disiez, le pouvoir est entre les mains d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est un livre qui était passé un peu sous silence, mais qui revient et qui, en gros, aujourd'hui, influence beaucoup de personnalités de la Silicon Valley. Donc, je voulais savoir si ce texte-là n'était pas, en réalité, le texte fondateur de ce qu'on vit actuellement. C'était la première question. Et la deuxième, pour revenir à ce que vous disiez sur Musk, certes, Musk, aujourd'hui, s'est retiré, mais en réalité, il a un pouvoir de nuisance qui est tel qu'en réalité, il est supérieur à celui de certains États. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il est en position quasiment monopole maintenant sur l'atteinte à la station, aux stations orbitales. Donc, il a dit que s'il arrêtait de les réapprovisionner avec SpaceX, eh ben, en fait, il n'y aurait plus de programme spatial américain. Il a dit aussi en Ukraine que s'il arrêtait l'accès Internet par Starlink, l'Ukraine perdrait la guerre face aux Russes. Donc on voit aujourd'hui qu'à force de s'être opposé avec des aides publiques sur ces milliardaires, ben, en réalité, les États deviennent dépendants de ces milliardaires. On voit quand même un basculement. Alors, il n'a pas mis encore ses menaces à exécution. Mais en tout cas,
Il a dit sur son réseau X. Hein,
oui, exactement. Donc, je voulais savoir sur ces deux pans.
Jérôme Perrier.
Sur Ayn Rand, je suis absolument d'accord. D'ailleurs, Peter Thiel est un grand lecteur et un grand admirateur de Ayn Rand. Je pense qu'Ayn Rand a plus fait pour la popularité des idées libertariennes que tous les théoriciens, y compris les plus importants comme Rothbard. C'est quelque chose qu'on mesure mal en France, puisque si vous prenez donc son principal roman, enfin celui qui a été le plus vendu, on dit qu'il a été vendu à 19 millions d'exemplaires.
Donc le pouvoir de la littérature.
Alors, en anglais, donc le titre est Atlas Shrugged. Il est paru en 1957. La traduction française sous le titre de La Grève date de 2011. Je précise que c'est un pavé de 1400 pages et que sur le plan littéraire, il y aurait beaucoup à dire. Donc, il y a beaucoup de Français qui ne l'ont pas lu. C'est un livre absolument fascinant pour un Français, pour une raison simple, c'est que c'est un livre totalement manichéen, mais qui développe un manichéisme qui est exactement le contraire de celui qu'on peut avoir de ce côté-ci de l'Atlantique, puisque vous l'avez très bien dit, dans La Grève, tout ce qui évoque l'État, c'est le diable, et tout ce qui évoque l'entrepreneur, le privé, l'entreprise, c'est valorisé, hein. Et donc, c'est assez étonnant, enfin, pour un lecteur français, c'est assez troublant. Mais c'est un livre qui a une influence absolument considérable sur un nombre de gens incalculable, pas seulement sur les libertariens, tous les libertariens
l'ont lu. On sait si Donald Trump l'a lu, par exemple.
Je ne sais pas. 1400 pages, j'en doute. Je ne devrais pas être mauvaise langue, mais j'en doute un petit peu. Hillary Clinton l'a lu. Et Hillary Clinton avait déclaré il y a quelques années que, comme tout le monde, aux États-Unis, elle avait eu son moment randien. C'est vraiment un livre qui est absolument fondamental pour comprendre les États-Unis et, évidemment, l'idéologie libertarienne. Sachant que l'idéologie libertarienne, on pourrait faire remonter ses racines jusqu'en Europe, et notamment dans la France du 19e siècle, mais enfin, on n'aura pas le temps d'en parler
mais
aujourd'hui.
Au-delà d'aller dans l'histoire, allons aussi un peu géographiquement, puisque dans les notes que vous avez publiées à la Fondation pour l'innovation politique, raison de notre invitation ce soir, ça s'appelle le détournement populiste du courant libertarien, notes qui sont accessibles gratuitement en ligne. Vous montrez d'abord les racines de cet anarcho-capitalisme vers le populisme de droite et ce courant libertarien, et en même temps son influence très forte, y compris sur Javier Milei. Là, on est en Argentine.
Alors, le cas de Javier Milei est très, très intéressant, parce que là, on n'est pas du tout dans le cas de Trump. On est affaire à un intellectuel, un économiste de formation, un universitaire, qui, en 2013, a eu une véritable illumination en lisant les thèses de Rothbard, justement, le grand théoricien du libertarianisme.
Murray Rothbard,
et notamment son grand traité d'économie qu'il avait publié au début des années 60, dans lequel il défend les monopoles. Une des différences entre les libéraux et les libertariens, c'est que les libéraux se sont toujours méfiés des monopoles, alors que les libertariens, les plus radicaux, les défendent. Et donc, Milei est quelqu'un qui est intellectuellement très structuré. On le voit d'ailleurs dans ses discours. Parfois, c'est un peu trompeur, parce que comme il a par ailleurs un vocabulaire assez imagé, pour ne pas dire parfois ordurier, ça masque un petit peu la solide charpente intellectuelle de ses discours. Et donc, à la suite de cette révélation due à la lecture de Rothbard, il a lu toute la littérature libertarienne. Hein, et donc ça se ressent profondément dans ses discours. Et c'est une différence majeure, aussi bien d'ailleurs avec Trump qu'avec Musk. On a vraiment affaire. Et alors, c'est d'autant plus intéressant qu'il parvient à concilier des choses qui, en toute logique, le sont difficilement, puisque sur le plan économique, il a donc des thèses
ultralibérales,
on va dire.
De destruction de l'État-providence.
Alors qu'en revanche, effectivement, sur les questions sociales, sociétales, il est conservateur, pour ne pas dire réactionnaire.
Hein. Bon, après, c'est aussi une singularité en Argentine, pays ruiné économiquement, une inflation galopante qui lui permet de...
Effectivement,
aussi,
on ne peut pas comprendre le phénomène...
De voir les idées un peu différemment.
Milei, sans faire référence au péronisme et à tout...
Cette histoire très forte. Mohamed Bouabdallah, peut-être une réaction sur ce dont on parle. Ça a l'air un peu compliqué, on cite beaucoup d'auteurs, on les mettra tous d'ailleurs sur la page de cette émission, mais on est là au cœur de ce qui est important dans l'histoire, en tout cas des États-Unis aujourd'hui.
L'histoire des États-Unis et l'histoire du monde. Je pense qu'on assiste à une forme de bifurcation et le débat fait rage. Je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir quelle sera la conclusion. C'est vrai que les réactions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui commencent à se faire entendre, mais ont encore un peu de mal à s'organiser. Mais on est passé d'une période, c'était celle de la fin de l'histoire, où il y avait un modèle unique, on nous disait « there is no alternative, Tina ». Aujourd'hui, on est dans le champ qui a été réouvert, et avec donc cette offre politique, intellectuelle, très à droite, etc. Et donc la question, c'est comment est-ce que des réponses sont faites ? Et ce que je voudrais juste relever de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que Curtis Ervin développe sa pensée par une lecture approximative de l'histoire. Et je pense qu'une des réponses, ça va être de faire en sorte qu'on revienne à une lecture précise de l'histoire et notamment de comparer Roosevelt à un dictateur est absolument fascinant.
Ouais, un monarque, ouais.
Et je pense que bah, justement, le livre de Judith Pérignon permet, on va essayer de le faire traduire aux États-Unis, permet de remettre les choses...
Les pendules à l'heure.
Les pendules à l'heure.
Gilles Gressani.
Évidemment, je pense qu'il faut continuer à garder une forme d'attention, de soin, des idées, etc. Mais en réalité, je me pose aussi un peu la question... si on ne nous sommes pas aujourd'hui dans une impasse qui vient du fait qu'on voudrait peut-être fact-checker Donald Trump et que finalement, je pense que c'est très difficile de...
Et puis il s'en fout, il dit n'importe quoi, il sait très bien, il change d'idée le lendemain.
Mais vous savez, il y a un extrait que moi j'adore, je crois que c'est un échange qui doit être totalement apocryphe, mais il est tellement beau qu'il doit être vrai. Khrushchev aurait dit à Richard Nixon, quand Richard Nixon était vice-président des États-Unis, si ton peuple est convaincu qu'il y a quelque part un fleuve imaginaire, il ne faut pas que tu expliques à ton peuple qu'il n'y a pas de fleuve, il faut que tu construises sur le fleuve imaginaire un pont imaginaire. Et je pense que le problème aujourd'hui est vraiment celui-là, c'est que nous avons face à nous des personnes qui font des ponts imaginaires, qui sont extrêmement impressionnants. Nous passons beaucoup de temps à essayer de faire deux choses. Première, dire... ce pont ne peut pas tenir, donc on fait des analyses d'ingénierie très sophistiquées sur des ponts qui sont totalement imaginaires, ou nous essayons de dire, écoutez, chers amis, soyez un peu rationnels, il n'y a aucun fleuve, il faut changer de position, abandonner cette manière de voir les choses, etc. Et je pense que si nous sommes républicains, si nous sommes démocrates, au sens le premier du terme, et face à cette impasse, peut-être ce qu'il faut faire, c'est d'abord se poser la question de si les gens voient quelque part un fleuve, c'est qu'ils ont soif, qu'ils veulent du mouvement. Et peut-être c'est en intégrant cette dynamique-là à notre projet, à notre position, qu'on pourra avancer et opposer non pas un autre pont imaginaire à un pont imaginaire, mais quelque chose qui soit plus solide. Et donc, au fond, la recherche de l'eau.
Pour terminer, Emmanuel Paquette.
Oui, j'avais une petite question sur une petite musique qu'on entend aux États-Unis depuis un certain temps, qui est le revenu universel. Qui est poussé notamment par des libertariens. Alors que par essence, on pourrait se dire un revenu universel, c'est justement que l'État donne de l'argent à tout le monde, dès la naissance jusqu'à sa mort. Donc c'est pas un salaire, ça peut être un complément de salaire. Et on voit aujourd'hui que, par exemple, Google a financé des expérimentations en la matière aux États-Unis. On voit Hewlett-Packard, la famille Packard, qui a financé aussi des expérimentations là-dedans. Cisco et Apple également. Donc tous les grands acteurs de la Silicon Valley financent des essais. Comment on peut expliquer ça, sachant que dans le même temps, en France, bah, c'est par exemple Benoît Hamon, qui a poussé exactement cette même idée récemment, qui est lui à l'autre bout du spectre pour le coup.
Jean Perrier.
Je crois tout simplement qu'il y a des libertarianismes comme il y a eu des libéralismes. Il y a
autre... Des socialismes.
Non, mais dans le cas du mouvement libertarien, c'est particulièrement vrai.
Vous voulez dire que c'est une auberge espagnole, quoi.
Voilà, ou on peut appeler ça une galaxie, une nébuleuse.
Auberge américaine, on dira désormais.
C'est tout, en tous les cas, sauf un mouvement structuré, toujours cohérent et monolithique.
Bon, je ne sais pas si on a tout compris, parce que c'est fort complexe. Et puis surtout, ce sont des pensées. Par ailleurs, l'entretien est formidable. Enfin, bravo d'avoir fait ça dans Le Grand Continent, c'est en ligne. L'interview avec Curtis Ervin. Je signale d'ailleurs l'apparition d'un de ses livres. Je viens de le recevoir, Grey Mirror, de Curtis Ervin, puisqu'il publie aussi des livres. Je renvoie à la revue Le Grand Continent, à l'exemplaire du Grand Continent en version papier chez Gallimard, L'Empire de l'Ombre, avec ce manifeste que vous publiez. Et puis vos deux notes, Jérôme Perrier, Le détournement populiste du courant libertarien, un accès libre sur la Fondation pour l'innovation politique. Toutes les références et les auteurs dont on a parlé au cours de ce débat sont à retrouver sur la page de l'émission Soft Power sur le site de France. France Culture. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous pouvez rester pour la deuxième partie ou troisième partie de cette émission. Dans un instant, le grand focus du dimanche soir, la politique culturelle et d'influence française aux États-Unis. On reste aux États-Unis. Je reçois Mohamed Bouabdallah, le conseiller culturel français en poste à New York. Mais juste avant, musique. Une nouveauté avec la chanteuse et compositrice britannique Rai et le producteur Mark Ronson, le titre Suzanne sur Culture, où l'on construit semaine après semaine la bande-son de notre siècle. Eyes are like the ocean, her nails are painted green, a cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Grey skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Suzanne. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. That's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Suzanne. 19h21 en direct sur France Culture.
Vous écoutez France Culture.
On a besoin de vous, nous allons sauver nos paysages, ceux qui disparaîtront peut-être dans quelques décennies.
Expérience Aurélie Charron.
Enregistrez-vous en message vocal, choisissez un lieu bien précis qui vous est cher, décrivez tous les détails que vous voyez, laissez libre cours à vos pensées et dites-nous où se situe le lieu, votre nom, votre prénom. Envoyez-nous le message vocal au 06 01 01 33 53.
France Culture propose une nouvelle collection de podcasts, Les Aventuriers de l'archéologie. Des découvertes racontées sous forme d'enquête par les archéologues qui les ont faites. Un paléopolar.
La première découverte de restes humains vraiment significatifs, elle a lieu en 2007.
Les Aventuriers de l'archéologie, l'énigme d'Hyrud, un si vieux sapiens, par Jean-Jacques Hublin, réalisation Assia Weber, une nouvelle collection de 4 épisodes à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
h 22. Rebonsoir Mohamed Bouabdallah.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller culturel à l'ambassade de France aux États-Unis et directeur de la Villa Albertine. Je reviens sur votre parcours parce qu'il est passionnant en quelques dates, 5 dates. Vous êtes né en Seine-et-Marne, dans une cité HLM en 1978, de parents venus d'Algérie. Et donc vous êtes un, comment dire, binational, c'est ça?
Tout à fait. Enfin, je me définis d'abord comme
français.
Diplomate français de parents algériens.
Je le dis parce que vous avez écrit un article dans Le Monde, notamment au moment où il y avait eu ce débat sur la binationalité, comme quoi vous ne seriez pas des Français, disaient certains, tout à fait comme les autres, et en tout cas que vous ne devriez pas servir la haute administration. Vous avez publié une tribune sur ça dans Le Monde.
Oui, je l'ai fait. Alors, on est soumis au devoir de réserve, mais à ce moment-là, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de dénoncer cette proposition. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas eu beaucoup de réactions à la suite de cette proposition. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce papier. Parce que j'avais pensé à l'étrange défaite de Marc Bloch et tout ce qu'il a dit sur la défaite d'abord intellectuelle, morale, qui a précédé la défaite militaire. Et donc, pourquoi à un moment donné, ces repères se perdent? Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce papier.
Et se terminer, Tribune du Monde. Que faire, quitte à subir les foudres de mon administration, j'ai décidé de sortir de mon devoir de réserve. Nous devons empêcher l'arrivée du RN au pouvoir, y compris en votant pour le nouveau Front Populaire. Et si un tel malheur doit arriver, je ne les laisserai pas me prendre. Je démissionnerai. Entre bourreaux et résistants, j'ai choisi. Je vous cite.
Oui, alors parce que je voulais aussi... je voulais pas que ma prise de parole soit une prise de parole gratuite, On aurait pu me rétorquer, c'est très facile, vous êtes fonctionnaire, vous donnez des leçons.
Vous avez pris un engagement.
Et donc j'ai pris un engagement et voilà.
Vous faites Mathsup, économie à Dauphine, Sciences Po, puis l'ENA. On a comme l'impression que pour un Français né de parents algériens, premier de sa famille à avoir le bac, il faut presque, c'est comme s'il fallait accumuler les diplômes pour être enfin accepté, reconnu.
Non, c'est pas ça. En fait, la vérité, c'est que il m'a fallu d'abord du temps pour choisir un peu ma vocation. J'étais très bon en maths.
Du coup, c'est un parcours un peu, mais c'est beau, quoi. C'est un parcours un peu.
Ouais, j'ai hésité.
Vous vous êtes cherché.
Oui, parce que j'avais des facilités, comme on dit, en mathématiques et en histoire. Alors, j'ai voulu être astrophysicien. Aujourd'hui, je suis diplomate. C'est l'histoire qui se fait. Et puis surtout, c'est parce que j'ai travaillé en parallèle de mes études. J'ai arrêté mes études à plusieurs reprises pour pouvoir
gagner
ma vie. Et puis ensuite préparer le financement des études. Et c'est au travers des rencontres, au gré des rencontres, que ça m'a pris 15 ans. Que j'ai abouti là où je suis aujourd'hui.
Vous êtes diplomate, vous l'avez été à Belgrade notamment en 2002, puis conseiller culturel en Égypte en 2016. Vous avez également été en poste auprès du représentant français au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Vous participez à cette période, on l'a dit en début d'émission, à la conclusion de l'accord nucléaire avec l'Iran à Vienne. Vous êtes membre de l'équipe française de négociation dirigée par le ministre Laurent Fabius. Vous êtes ensuite sous-directeur des affaires politiques au Quai d'Orsay et bientôt en 2023. Vous êtes pressenti au poste d'ambassadeur de France au Burkina Faso, mais après une campagne de calomnie, je le dis, de calomnie sur les réseaux sociaux, les fake news et la désinformation, votre agrément est refusé par le pouvoir en place et donc votre candidature retirée. Ce fut un coup dur, comment dire, une incompréhension pour vous ?
Tout d'abord, j'étais très fier d'être nommé par le président de la République ambassadeur de France au Burkina Faso. Je m'y suis préparé pendant plusieurs mois, ici à Paris, en rencontrant un maximum de chercheurs, d'acteurs de la société civile, de Burkinabés vivant en France. Et puis, j'ai pas eu mon agrément.
C'est comme si, au fond, l'argument d'une France coloniale tombait, et donc, d'une certaine manière, ils pouvaient pas accepter quelqu'un qui nierait, finalement, leur discours mensonger.
Écoutez, je ne vais pas commenter, mais simplement, j'étais évidemment déçu. J'avais à cœur d'achever ma mission, de mener à bien ma mission au Burkina. Et j'ai une pensée ce soir pour l'équipe en place là-bas, le chargé d'affaires et ses collaborateurs.
Il n'y a toujours pas d'ambassadeur du coup, on n'en a pas nommé à votre place.
Et j'espère qu'un jour, nous pourrons retrouver les voies de la coopération.
Alors, peut-être qu'un jour, vous serez ambassadeur au Burkina Faso, on suivra l'histoire. Vous êtes nommé ensuite conseiller culturel, on dit COCAC dans le jargon du ministère des Affaires étrangères, à New York et directeur de la Villa Albertine, poste que vous occupez toujours actuellement, raison de mon invitation ce soir. Ça veut dire quoi COCAC et qu'est-ce qu'un conseiller culturel? Quel est son rôle?
Donc, notre rôle est assez simple, c'est de rapprocher la France et les États-Unis en l'espèce à travers les arts et l'éducation. Et donc, de mettre en relation les acteurs culturels, éducatifs et universitaires de nos deux pays et de les soutenir dans leurs projets et de préparer l'avenir. C'est vraiment un travail de long terme. On est dans cette émission Soft Power, on dit souvent que c'est une action de soft power, d'influence. Et c'est ça, c'est mettre en relation les deux sociétés pour préparer poser les fondements d'une relation amicale.
Quelle est l'étendue, la structure de ce réseau aux États-Unis et comment il marche? Je précise pour nos auditeurs, une sorte de petit disclaimer, comme on dit, que j'ai moi-même été attaché culturel français aux États-Unis en 2001, il y a donc 25 ans, donc ça veut dire qu'il y a prescription et en plus, on ne se connaît pas. Je vous ai parlé juste pour préparer cette émission, mais par souci de déontologie, je souhaitais le signaler. Quelle est donc l'étendue de ce réseau? Comment ça marche aux États-Unis aujourd'hui?
Donc le réseau aux États-Unis, c'est un réseau très étendu, assez unique dans le monde. On est présent dans 10 grandes villes aux États-Unis depuis...
Lesquelles? Donc Chicago, c'est ça?
Chicago, Los Angeles, San Francisco, Houston, Nouvelle-Orléans, Atlanta...
Miami.
Miami, Boston, où vous avez servi.
Et puis New York et Washington.
New York et Washington. Et le siège n'est pas à Washington, mais il est à, même si je dépends de l'ambassadeur de France à Washington, mais il est à New York.
C'est une incongruité, il n'y a pas beaucoup de pays où c'est ça, je crois, au Brésil aussi.
Mais ça, oui, ça reflète en fait la réalité du pays.
Parce qu'à Washington, il y a moins de culture qu'à New York, pour aller vite.
Disons plutôt que New York est la capitale culturelle, intellectuelle et philanthropique.
Économique,
ce qui est très important,
aussi,
économique et donc philanthropique des États-Unis.
Donc philanthropie, ça veut dire recherche d'argent, c'est ça, notamment?
Tout à fait, puisque notre réseau aux États-Unis s'appuie beaucoup sur les financements privés pour financer son action.
Alors dans l'émission du conseiller culturel, COCA qu'on a dit, ça veut dire quoi? Conseiller?
Alors, conseiller de coopération d'action culturelle, alors... Aux États-Unis, on dit plutôt conseiller culturel parce que j'ai pas la recherche scientifique en sciences dures dans mon portefeuille.
Mais vous avez le linguistique et l'éducation. Ça veut dire que les, parlons-en deux secondes parce que c'est important. Ça veut dire que les, la langue française, c'est votre travail aux États-Unis. Ça se traduit comment? Les lycées français, etc.
Alors, on a la mission artistique, on y reviendra. La mission éducative et linguistique et la mission universitaire pour les sciences humaines et sociales. Pour la mission éducative et linguistique, il y a 56 lycées français aux États-Unis et on a un programme à destination des écoles publiques américaines. Il y en a environ 200 qui sont des écoles bilingues et pour lesquelles on développe un programme d'apprentissage du français qui s'appelle French for All, le français pour tous. L'objectif étant de permettre aux Américains qui le souhaitent d'avoir accès à la langue française.
Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a d'une part des lycées français qui ont un lien avec le ministère de l'Éducation nationale, sans doute des échanges de professeurs,
qui sont
etc.
homologués, qui bénéficient de professeurs détachés.
Par
qui
l'agence AEFE, c'est ça,
exactement,
du ministère.
Exactement, par l'AEFE, et qui donc délivrent des diplômes reconnus par l'Éducation nationale, le brevet et le bac.
Et puis il y a des écoles, donc les French for All, qui à l'époque n'existaient pas, qui sont des écoles, disons, des écoles américaines, classiques, mais qui ont des sections ou des formations bilingues français-anglais, c'est ça?
Exactement, ce sont des écoles américaines en majorité publique, 200, je rappelle le chiffre, et qui donc suivent le programme américain, mais pour une partie de leur enseignement, donc ça peut aller jusqu'à 50%, sont enseignés comme les mathématiques ou l'histoire, par exemple, sont enseignés en français.
Être diplomate culturel dans un pays donc comme les États-Unis, je dirais sans diplomatie culturelle, en tout cas officielle, même s'il y a eu des parenthèses, on parlait de Roosevelt tout à l'heure, on pourrait parler de la guerre froide, un peu Kennedy, Johnson, et puis l'USAID, qui joue un peu ce rôle. Comment on travaille du coup aux États-Unis?
On travaille avec les acteurs locaux. C'est vraiment un travail de terrain très fin qui nous permet de toucher les prescripteurs, puisque on n'a pas une vocation très grand public. On n'a pas les moyens, on n'a pas l' ambition, et ça serait un peu vain. Mais ce qu'on va essayer de toucher, c'est les prescripteurs.
Donc on est influenceur d'influenceurs, on pourrait
exactement.
Dire.
Exactement. Et on essaie de les toucher pour à la fois leur faire changer de regard sur la France, les intéresser à la France et à ses acteurs culturels, éducatifs et universitaires.
Sur le plan universitaire, il y a des étudiants français qui vont aux États-Unis, des étudiants américains qui viennent en France. On en est où en ce moment de cette attractivité d'une part d'un pays vers l'autre, compte tenu du contexte qu'on rappelle quand même, c'est-à-dire Donald Trump qui freine le nombre de visas, en tout cas alors pas spécifiquement contre la France, mais en tout cas contre le monde, disons. Il est en guerre contre le monde entier. Et vous essayez de comment faire d'attirer des étudiants américains en France. C'est ça votre première mission, avec notamment un nouveau projet en cours.
Oui, alors notre mission, c'est une mission d'attractivité des États-Unis vers la France. Et donc nous cherchons à attirer un maximum d'étudiants américains, ceux qui vont être les dirigeants de l'Amérique de demain, de les attirer en France. Et donc la tendance, elle est à une légère décrue. Et donc c'est pour ça que cet été, nous allons lancer un nouveau programme qui s'appelle Lafayette Fellowship, les bourses Lafayette qui vont chercher à attirer.
C'est une annonce que vous faites ce soir.
Tout à fait, je vous en réserve l'exclusivité.
Lafayette Fellowship.
Voilà, donc l'idée c'est que la première promotion arrivera en France en 2026 à l'occasion des 250 ans de l'indépendance américaine et de l'amitié franco-américaine. Et nous allons investir sur cette nouvelle génération d'étudiants américains.
Emmanuel Paquette.
Alors, il y a une petite déclaration de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, hier devant les étudiants d'HEC. Donc, c'était concernant Harvard, puisqu'aujourd'hui, les étudiants internationaux d'Harvard pourraient devoir quitter le campus. Alors, il a dit, je cite, « Nous sommes avec vous. Si les tribunaux américains maintiennent les décisions interdisant les étudiants internationaux, alors la France offrira un lieu sûr pour terminer leur diplôme. » Alors, je voulais savoir, est-ce que vous allez plutôt envoyer des étudiants étrangers en France et pas nécessairement américains? Puisque là, en l'occurrence, il s'agit plutôt d'étudiants non américains. Première question. Et deuxième question, quelles sont vos relations avec l'administration lorsqu'on voit une sortie du ministre des Affaires étrangères comme ça?
Alors, tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères est mon chef, puisque je suis diplomate et que le...
Un de vos deux chefs.
Le seul, puisque les services culturels des ambassades dépendent du Quai d'Orsay. On a évidemment des liens organiques avec le ministère de la Culture, mais nous dépendons du ministère 100%. Des Affaires étrangères. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout ça est très complémentaire. Et travaillons évidemment au service du ministère des Affaires étrangères. Donc, l'idée, c'est d'abord voir ce que les juges américains vont décider, puisque les différents décrets, les différentes annonces faites par le président américain sont aujourd'hui suspendues par les juges. Donc il faut d'abord voir ce qui va se passer. Et ensuite, naturellement, si les étudiants étrangers ne peuvent plus accéder au campus américain, que ce soit celui de Harvard ou d'autres, il va falloir qu'ils se retrouvent ailleurs. Et je pense qu'il serait de bonne politique, par solidarité à l'égard de nos amis américains, de faire en sorte que des établissements français qui travaillent étroitement avec les établissements américains, puissent les aider à accueillir ces étudiants. Ça, c'est la première chose. Et ça n'enlève rien à notre ambition d'attirer les étudiants américains en France pour préparer les 20 à 30 prochaines
années. Les places sont limitées quand même.
Oui, mais la France est un grand pays.
Vous qui vivez à New York depuis maintenant plusieurs années, quelle est la situation dans les universités, les milieux culturels? Comment vous ressentez ce qui s'est passé, puisque ça n'est arrivé que depuis janvier, donc assez récemment, depuis l'élection de Trump, en tant que, par exemple, la liberté académique ou la liberté d'expression?
Comme l'a rappelé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères hier, on est préoccupé par l'atteinte à la liberté académique qui se fait jour aujourd'hui sur les campus américains, qui sont des lieux extrêmement importants dans le paysage culturel américain. Et donc on ne peut être que préoccupé par ce que cela représente. Et donc on est au contact de nos partenaires. On les écoute, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour les mettre en relation avec leurs homologues français. Et puis sur la partie artistique et culturelle, même inquiétude, avec aussi une question sur les financements. Puisque même si la culture aux États-Unis est essentiellement financée par le mécénat privé, il y a également des financements fédéraux qui, eux, ont été coupés. Et donc là, ça fragilise notamment, par exemple, le spectacle vivant qui, traditionnellement, est mal financé.
Est-ce que vous avez des institutions culturelles, des universités qui, du coup, font appel à vous en disant on a besoin de vous parce qu'on a perdu de l'argent du côté du gouvernement fédéral, des grandes agences comme le National Endowment for the Arts ou le National Endowment for the Humanities, par exemple?
Alors, de toute façon, ce sont des institutions avec qui on travaille au quotidien. Donc ça continue. Et donc pour aujourd'hui, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on voudrait éviter, c'est que toutes ces institutions qui, avec notre aide, accueillaient des artistes, des compagnies françaises, se ferment faute de moyens. Donc on va essayer de trouver des moyens financiers permettant de continuer à avoir ces échanges, parce qu'une culture qui se referme sur son propre territoire, c'est vrai pour les États-Unis comme pour tout autre pays, c'est une culture qui s'appauvrit. Et donc il faut continuer à avoir ces échanges et on va se battre pour ça.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
19h37 en direct, mon invité Mohamed Bouabdallah, conseiller culturel à l'ambassade de France aux États-Unis et directeur de la Villa Albertine. Venons-en justement à la Villa Albertine maintenant. C'est un projet à la fois de villa, de résidence, etc., mais aussi le nom au fond d'une évolution du réseau dit Institut français, en tout cas aux États-Unis. De quand ça date? Pourquoi Villa Albertine?
Alors, Villa Albertine. Pourquoi Albertine? Parce que il y a 10 ans, on a créé une librairie, la librairie Albertine à New York. C'est aujourd'hui la seule librairie francophone aux États-Unis. Elle est magnifique.
Parce qu'il y en avait une à Lincoln Center qui a fermé, je crois.
Rockefeller Center et qui avait fermé. Et donc, il a été décidé d'en créer une au sein du siège, donc sur la 5e avenue à New York. Et Albertine, parce que Antonin Baudry, qui était le conseiller culturel à l'époque.
À l'époque, ouais. Aujourd'hui, directeur du Centre national du cinéma.
Non,
la cinématographie.
C'est Gaëtan Bruel. Pardon. Son prédécesseur immédiat.
Qui faisait des bandes dessinées, voilà.
Voilà, qui aujourd'hui fait des films. Et il y a un film qui va sortir bientôt sur De Gaulle, en deux parties. Il avait fait son mémoire à l'ENS sur Proust. Voilà
donc d'où Albertine retrouvée, disparue et tout ce qu'on veut. Donc son successeur, en l'occurrence, Gaëtan Bruel, a transformé cette villa en réseau. Que s'est-il passé exactement?
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un programme de résidence, d'où le terme de villa. Et ensuite, quand je suis arrivé, j'ai décidé de renommer les services culturels français aux États-Unis du nom de Villa Albertine pour couvrir l'ensemble de nos activités.
Pour que ce soit plus clair, plus cohérent.
Voilà, pour que ça soit plus lisible vis-à-vis de nos partenaires. Le nom de Villa Albertine commence à se faire une place parmi nos partenaires. Et donc, en termes de communication, c'est important. Lorsqu'on promeut l'image de la France à l'étranger, on a décidé de donner ce nom. Et donc, le programme de résidence, qui est aujourd'hui au cœur de notre dispositif d'échange culturel, l'inspiration vient de ce qui se passe à Rome, par exemple, avec la Villa Médicis, mais adaptée, ajustée au contexte et au territoire américain.
Qui est beaucoup plus vaste, évidemment, 15 fois plus grand que la France, etc. Donc,
l'idée, c'est pas d'avoir un lieu où les artistes sont accueillis en résidence. L'idée, c'est d'avoir une totale liberté de localisation. Et donc, c'est le projet de l'artiste qui commande la résidence. Et donc, chaque année, nous accueillons, je l'ai dit tout à l'heure, environ 60 artistes qui peuvent aller où bon leur semble sur le territoire américain, depuis l'Alaska jusqu'au Dakota du Sud, jusqu'à New York.
Et même au Groenland, peut-être bientôt.
Alors, on a des résidences en Alaska. Voilà, c'est voilà, le plus honneur.
C'est le plus honneur où vous allez. 900 candidats, ça veut dire que c'est un programme qui attire, en tout cas, les candidatures.
C'est un programme qui est...
Vous avez dit 900 tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. 900 candidats environ chaque année, un très haut niveau de candidature. Et donc, on en est très heureux. Et donc, ce qui veut dire un processus de sélection extrêmement rigoureux. Nous avons des jurys qui sont organisés à travers le pays.
Des jurys de pairs, c'est ça
ou... Alors, ce sont des jurys qui sont en majorité composés par des acteurs culturels américains, puisque nous avons besoin de leur regard pour juger de la pertinence des candidatures, des projets de résidence. Et ensuite, nous avons un jury final qui se réunit à New York, où là, nous avons des Français et des Américains, et qui est présidé par le directeur du Musée des Arts Modernes de New York, le MoMA, Glenn Lowry. Et nous avons également Catherine Fleming qui
était déjà là il y a 30 ans, hein, mais bon, il est toujours là, c'est bien.
Il prend sa retraite été et il sera au Louvre à l'automne pour une masterclass.
Que font-ils ? On dit immersion, recherche et exploration, c'est ça leur travail ? Que font ces artistes ou d'ailleurs des écrivains intellectuels invités ?
Donc, ce sont des résidences multidisciplinaires. Donc, nous avons effectivement des cinéastes, des écrivains, des plasticiens, des archéologues, des professionnels du monde de la musique. Ce sont des résidences d'exploration, de recherche, et non pas des résidences de création, puisqu'elles ont une durée limitée de 3 mois maximum. Et notre idée, notre ambition, c'est d'offrir ce temps de liberté aux artistes, aux intellectuels, aux créateurs, pour qu'ils puissent s'imprégner du territoire américain, nouer des contacts avec leur père américain, et ce qui est ce moment-là du geste d'avant la création.
Qui les finance ? C'est financé par la France, par des partenariats publics, privés, etc. À quel pourcentage l'un et l'autre ?
Donc le programme de résidence est financé environ à 30% par la puissance publique, donc le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, et à 70% par nos mécènes. En premier rang, la Fondation Société Générale, qui est notre grand mécène pour le programme de résidence. Et nous avons également d'autres mécènes, comme la Fondation Bettencourt-Schuller, Engie, AXA, etc.
Est-ce que ce sont des artistes, ce sont parfois des écrivains et d'autres corps de métier, vous l'avez dit, assez variés. Comment ça se passe pour eux ? Ils sont tout frais payés ? Ils sont rémunérés ? Quelle est la règle ?
Donc, ils ne peuvent pas être rémunérés puisque ça nécessiterait l'obtention d'un visa de travail qui serait impossible.
Surtout pour 3 mois, oui.
Surtout pour 3 mois. Donc, en revanche, ils sont totalement défrayés. Donc, le vol international est pris en charge, le logement est pris en charge, les trajets locaux, s'il y a besoin d'une voiture, par exemple, si vous êtes au Texas, vous avez besoin d'une voiture, c'est pris en charge. Et puis, ils ont une allocation journalière qui permet de couvrir tous les autres frais d'environ 120 $.
Alors, j'ai interrogé quelques conseillers culturels, également des artistes qui ont été accueillis à la Villa Albertine. D'ailleurs, les artistes sont globalement contents. On pointe un certain nombre de critiques. Alors, on va les prendre les unes après les autres pour avoir votre avis sur chacune. Alors, certains me disent c'est une formidable marque, une belle marque, un très beau branding, une très belle opération de communication, mais finalement, rien de nouveau par rapport à ce qu'on faisait déjà.
Oui, ben, écoutez, s'il n'est pas interdit d'être capable de faire de la bonne communication, je pense qu'en revanche, c'est quelque chose qui a changé profondément le paysage de notre coopération culturelle aux États-Unis, puisque aujourd'hui, on a cette capacité.
Ça la rendrait plus visible, c'est ça notamment ?
Ben, surtout, ça nous permet d'irriguer l'ensemble du territoire américain, puisque cette année, par exemple, nous avons 60 résidents qui vont pouvoir se déployer dans 30 lieux. Depuis 5 ans, puisque nous fêtons le 5e anniversaire du programme de résidence, nous avons touché à peu près 60 lieux à travers les États-Unis.
Mais sans vouloir personnaliser, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y avait une quarantaine au moins d'artistes qui faisaient aussi le tour dans les 10 consulats que vous évoquiez tout à l'heure et les 10 postes culturels. Et si on ajoute tous ceux qui étaient accueillis localement par tous ces postes-là, c'était sans doute le même nombre en gros.
Alors, je pense que vous faites référence à d'autres dispositifs qui continuent d'exister au sein du service culturel, qui sont les tournées, par exemple les tournées d'auteurs, etc. Le programme de résidence est un peu différent, c'est-à-dire que ce n'est pas une tournée d'auteurs, ce qu'on continue à faire par ailleurs, mais c'est par exemple si vous prenez Alain Damasio, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Silicon Valley. Donc Alain Damasio a fait sa résidence à San Francisco il y a deux ou trois ans, je crois. Il s'est immergé pendant 3 mois dans l'univers, donc 3 mois, ce n'est pas une tournée où il reste 2 jours pour donner une conférence, il est resté 3 mois. Il a pu s'immerger dans le quotidien de la Silicon Valley grâce au contact de l'équipe à San Francisco, de la Villa Albertine à San Francisco. Il a pu rencontrer l'ensemble des acteurs de la tech, les intellectuels, des activistes de la société civile. Il est rentré en France et 1 an et demi après, il nous a contactés et il avait un manuscrit. Nous l'avons accueilli dans une nouvelle collection au Seuil, avec les éditions du Seuil, qui s'appelle Albertine. Et le livre, qui s'appelle Vallée du Silicium, est sorti l'année dernière, a été un immense succès, à la fois critique et de librairie. Je crois qu'on a vendu à peu près 70 000 exemplaires. Donc vous voyez, ça, la potentialité qu'offrent les résidences est assez unique.
Autre critique, ce serait un projet un peu top-down, c'est-à-dire au fond voulu par Paris ou par les services culturels à New York, mais qui n'est pas forcément celui qui naîtrait naturellement du sol américain. Si tant est que d'ailleurs que ça doit être le projet. Mais...
Alors, l'histoire intéressante, c'est que le projet est né d'abord à San Francisco, j'y reviens, puisque ça a commencé par la Villa San Francisco, commencé à construire un programme de résidence pour la baie. Et ensuite, Gaëtan Bruel, avec les équipes, on dit « Mais en fait, cette idée est extrêmement intéressante et donc on va essayer de la généraliser à l'ensemble du territoire américain. » Et ça a donné la Villa Albertine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jurys sont à 80% composés d'acteurs culturels américains. Donc en fait, il n'y a pas plus ancré sur le territoire américain que notre programme de résidence, puisque les projets sont vraiment jugés sur leur capacité de s'imprégner, de nouer des contacts durables avec les États-Unis.
Autre question, est-ce que, au fond, de mettre en avant ce programme de résidence, c'est pas un peu contradictoire par rapport à une évolution très importante de la politique culturelle, du ministère de la Culture, du ministère des Affaires étrangères, sur, au fond, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénierie culturelle, c'est-à-dire plutôt rechercher des accords, par exemple, avec TV5 Monde ou France 24 avec les câbles opérateurs, ou alors faire des projets de construction d'exposition avec le MoMA ou avec, je ne sais pas, tout le secteur des ICC, comme on dit, les industries culturelles et créatives, ou avec les GAFAM, plutôt qu'en revenir à quelque chose d'assez classique finalement, à savoir des conférences, des résidences, des missions d'artistes ou d'intellectuels ou d'écrivains qui tournent.
Alors en réalité, c'est précisément ce qu'on fait, puisque c'est le programme de résidence et d'autres programmes, des programmes d'immersion professionnelle sont vraiment des mises en relation entre les acteurs culturels français et les acteurs culturels américains. Et il n'y a pas meilleur ambassadeur de ce que la France peut offrir que nos acteurs culturels. Et c'est pour ça, par exemple, que notre programme de résidence n'est pas que réservé à des artistes visuels. On a aussi des directeurs de musées. Enfin, voilà, vous voyez, l'approche est vraiment B2B, et je le rappelais tout à l'heure. Nous n'avons pas ni les moyens ni l'ambition de faire de la diffusion culturelle à grande échelle, mais plutôt de créer de la coopération structurelle.
Pourquoi avoir rebaptisé, au fond, on a eu du mal à installer un nom qui est Institut Français, qui peine parfois à s'installer parce qu'à l'époque, ça s'appelait les Centres Culturels Français. Il y a aussi la question des Alliances Françaises. Il y a eu d'autres noms dans l'histoire. Il y avait même eu l'idée de l'appeler Institut Victor Hugo. Et puis vous avez Villa Albertine, avec même l'attaché culturel et surtout l'attaché audiovisuel à Los Angeles, qui désormais a une adresse email avec la Villa Albertine. Ça rend fou certains diplomates que vous ayez fait ça. Ils sont fous de rage.
Écoutez, on va se retrouver en juillet aux Journées du Réseau et aux Journées de l'Institut français.
Vous les câlinerez.
Et on prendra un verre pour discuter de tout ça. Non, plus sérieusement, on ne pouvait pas s'appeler Institut français pour la simple et bonne raison que la marque Institut français aux États-Unis était déjà déposée par l'Alliance française de New York qui s'appelait le French Institute Alliance française de New York. Donc on s'appelait la mission culturelle et universitaire de la France aux États-Unis. Donc un acronyme
Donc c'est plus beau la Villa Albertine.
Assez difficile à retenir. Et en réalité, la Villa Albertine, ça fonctionne très bien. Et je dois vous dire que moi, je ne sais pas quelles sont vos sources, mais j'ai tous les jours des camarades, des collègues qui m'appellent ou qui m'écrivent en me demandant « Tiens, j'ai cette idée, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu peux nous conseiller, toi ou tes équipes, sur comment on monte ce programme de résidence en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Brésil ?»
Oui, parce que le pire, c'est qu'elle fait des petits. Il y a des Villas Albertines partout.
Et même en Iran. Mon collègue m'avait contacté à ce sujet. Donc en fait, en réalité, c'est plutôt un modèle qui inspire et nous, on est très heureux de ça.
Est-ce que c'est un dispositif qui sera pérenne? Est-ce que vous croyez qu'au fond, dans 10 ans, il y aura toujours des villas albertines ou est-ce que ça a été un moment de folie collective aux États-Unis dans les services culturels et qu'après, tout reviendra dans la normale?
Alors, vous êtes très attaché à vouloir revenir à la normale. Mon ambition, en tout cas ma feuille de route, c'est de rendre pérenne le modèle. Et donc c'est ce à quoi je travaille. Et tout autant que la librairie Albertine créée par Gaëtan Bruel, par Antonin Baudry, pardon, et aujourd'hui s'est installée dans le paysage, tout autant que les programmes bilingues par Bénédicte de Montlaure se sont installés dans le paysage, les résidences s'installeront dans le paysage et les bourses Lafayette s'installeront également dans le paysage. Et c'est ce à quoi je m'attelle chaque jour.
Alors vous avez peut-être marqué un point là, parce que j'ai vu que Gilles Gressani prenait des notes, donc sans doute il va être candidat peut-être pour avoir une résidence à la Villa Albertine. Une question, Emmanuel Paquette.
Oui, il ne vous a pas échappé que l'équation budgétaire de l'État est extrêmement contrainte. Plusieurs dizaines de milliards d'économies sont cherchées pour le PLF, le projet de loi de finances 2026. Dans ces conditions-là, tous les ministères vont être mis à contribution, dont le vôtre. Est-ce que vous avez peur des coups de rabot qui vont arriver? Parce que nécessairement, vous êtes vu, notamment par l'opposition, vous parlez du Rassemblement National, tout ce qui est en fait soft power à l'étranger de la France, c'est un des éléments sur lesquels ils veulent s'attaquer si un jour ils arrivaient au pouvoir.
Alors, le budget du ministère des Affaires étrangères, je globalise un peu, puisque le sujet concerne l'ensemble du Quai d'Orsay, c'est moins de 1% des dépenses de l'État. Et en réalité, c'est depuis 30 ans que continuellement le ministère est l'objet d'attaques et de coupes parce que finalement on n'en voit pas tellement l'utilité. Mais en réalité, quand vous y pensez, lorsqu'il y a le Covid et qu'il faut rapatrier 300 000 Français à l'étranger, c'est le Quai d'Orsay qui est aux premières loges. Lorsque nous avons des opérations d'aide humanitaire, lorsqu'il y a une catastrophe dans le monde, un séisme, un tsunami, c'est les équipes du centre de crise. Aujourd'hui, lorsque nous avons la guerre qui se déclenche au Moyen-Orient, vous avez besoin de diplomates pour renseigner le pouvoir politique et pour ensuite tenter des médiations et des négociations. Et sur la partie culturelle, dont j'ai la charge aujourd'hui, c'est un investissement sur l'avenir. Vous ne construisez pas de relations durables avec un pays qui va pouvoir générer des liens amicaux, des alliances stratégiques et de la diplomatie économique, si vous n'avez pas une affinité de base, si vous n'avez pas une connaissance entre les pays. J'ai été en poste en Égypte pendant 3 ans. Nous vivons encore sur le souvenir de la coopération culturelle très intense entre l'Égypte et la France au 19e siècle et qui continue encore aujourd'hui. Donc je pense que
c'est pour ça que vous prenez Lafayette, c'est remonter encore plus loin finalement. Jusqu'à
exactement.
La Révolution.
Pas aussi loin que l'Égypte, mais oui.
Ça dépend qu'à l'Égypte. Il y a des Égyptes modernes. Une question, Gilles Gressani.
Il y a cette magnifique phrase que le directeur de cabinet de Churchill...
Il a préparé ses citations maintenant ce soir.
J'y pense souvent en ce moment quand on parle de culture. Il disait que les Alliés avaient gagné la Seconde Guerre mondiale parce que nos physiciens allemands étaient meilleurs que leurs physiciens allemands. Parce qu'évidemment, la force incroyable des États-Unis au XXe siècle a été d'être capable d'attirer des talents.
D'où l'université, le rôle de l'université.
Là où la démocratie disparaissait, là où des problèmes aussi graves que ceux que l'Europe a connus dans les années 30 et 40 surgissaient, au fond, les États-Unis étaient toujours là. Aujourd'hui, on peut se poser la question si il n'y a pas une frontière qui se referme, celle de l'innovation, de la science, dans son articulation avec la démocratie aux États-Unis. Et là, au fond, moi, ça m'intéresse un peu d'avoir votre position, parce que on aurait presque envie d'être plus assertif. D'ailleurs, il y a plusieurs prises de parole du ministre, du président de la République, qui vont dans ce sens-là. Et en même temps, il faut continuer à faire de la diplomatie, donc il faut continuer à créer des ponts. Donc comment on fait pour essayer de trianguler le cercle? Est-ce qu'il faut qu'on soit beaucoup plus assertif et qu'on attire beaucoup plus de talents, et donc on dise il y a deux modèles et l'océan est devenu un océan, l'océan Atlantique?
Tout à l'heure c'était un fleuve, j'essaye de suivre, maintenant c'est l'océan.
Ou est-ce qu'il faut juste essayer de construire toujours dans cet océan?
Mohamed Bouabdallah, trianguler le cercle, allez.
Je pense que la coopération n'est pas contradictoire de l'émulation. Je parle plutôt d'émulation que de compétition. Clairement, on a un intérêt pour la France et pour l'Europe d'attirer des talents, de développer notre base scientifique et technologique, et pas que technologique d'ailleurs, sur le territoire français et européen. Et donc, il y a une forme d'émulation qui doit se construire et qui doit être au service de la recherche entre nos deux continents. Donc moi, je vois pas de contradiction, et au contraire, on est là pour bâtir des ponts. Et je suis plutôt confiant sur le fait qu'on y arrivera, parce que, et je le constate tous les jours, avec nos amis américains, on a beaucoup de choses à partager.
Emmanuel Paquette.
Oui, une petite question sur votre nouveau plan de développement autour de l'intelligence artificielle, puisque là maintenant, développement d'intelligence artificielle autour de la culture, dans différents domaines de la culture d'ailleurs, c'est cofinancé en tout cas par une mécène qui s'appelle Fujisimo, qui est assez connue dans le milieu de la tech. Elle a été en responsable, elle est franco-américaine, elle a été responsable de Facebook à un moment donné, de l'application Facebook, et aujourd'hui en fait elle prend la tête d'OpenAI, donc l'éditeur de ChatGPT, donc l'intelligence artificielle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de devenir du coup un instrument un peu de lobby, puisque aujourd'hui OpenAI, tous les créateurs sont contre, ou en tout cas s'y opposent, en disant que ça pille la création intellectuelle, ça permet de faire des dessins animés par exemple, des photos en pillant les droits, notamment le New York Times par exemple, même la presse a attaqué ChatGPT et OpenAI. Est-ce que recevoir l'argent d'une telle mécène pour la lancer sur la culture de l'intelligence artificielle, c'est pas l'aider à faire de la communication autour de l'IA?
Alors, ce programme de résidence autour de l'IA n'est pas financé par OpenAI. Il est financé par Fujisimo à titre individuel, et dans l'accord qu'on a conclu sans aucune difficulté d'ailleurs, les artistes seront libres d'utiliser l'outil de leur choix en termes d'intelligence artificielle. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc là, vous pouvez être rassuré sur ce point. La deuxième chose, c'est nous avons développé toute une série de conférences, et nous éditons une revue qui s'appelle States, qui est un vecteur du dialogue franco-américain où on accueille des contributions. Et donc, nous avons fait un dossier sur Arts in the Age of AI, les arts à l'âge de l'IA. Et donc, nous posons une question, c'est comment on s'adapte, la question des droits d'auteur, la question de la définition de l'artiste, etc. Et ce programme de résidence permet de répondre à ces questions, en tout cas de les explorer. Donc, on ne prend pas un parti pris qui est totalement positif ou totalement négatif à la question de l'IA. En tout cas, l'IA aujourd'hui est présente. Et donc, on donne le pouvoir aux artistes qui vont venir, grâce à ce programme de résidence aux États-Unis, de se frotter à la scène culturelle et technologique américaine, d'y réfléchir. C'est pas simplement des artistes qui utilisent les outils de l'IA, c'est aussi des artistes ou des intellectuels qui travaillent autour de l'IA et qui vont nous aider à nous éduquer et à mieux comprendre ce qui se passe et à essayer de trouver des solutions. Donc vous voyez, on a vraiment une approche assez respectueuse du débat et qui permet de d'avancer en connaissance de cause.
Vous auriez pu dire aussi que ça n'existait pas à l'époque de Frédéric Martel, ce genre de choses.
Ça veut dire aussi que pour un diplomate aujourd'hui, être dans la culture, être un diplomate culturel, c'est valorisé par le Quai d'Orsay. C'est peut-être ça la nouveauté ces dernières années. Quelqu'un comme vous peut-être n'aurait pas été conseiller culturel il y a 20, 30, 40 ans.
Dans l'histoire du Quai d'Orsay, il y a eu des évolutions. Il y a eu des périodes où c'était pas tellement entre guillemets à la mode, d'autres où ça l'est plus. Moi, je pense que c'est fascinant. J'ai fait ce choix volontaire.
Vous l'avez été en Égypte déjà.
En Égypte. Et pour tout vous dire, donc vous faisiez référence à ma participation aux négociations en 2015 sur le nucléaire iranien. Et donc là, je pouvais demander un poste classique à Washington ou à New York. Je veux dire, dans la partie conseil de sécurité, etc. J'ai plutôt fait le choix d'être conseiller culturel parce que je pense qu'une diplomatie globale, c'est une diplomatie qui repose sur plusieurs pieds, dont la culture.
Merci infiniment. Vous m'avez convaincu sur Merci le village Bertine. Merci Mohamed Bouabdellah. Je rappelle que vous êtes conseiller culturel à l'ambassade de France aux États-Unis et directeur de la Villa Albertine. Pardon, ce soir on était 5 hommes, mais la semaine dernière on était 5 femmes. Donc comme quoi, ça varie d'une semaine à l'autre. Merci d'avoir à tous les trois, et Emmanuel Paquette, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Cette émission a été réalisée par Alexandra Malka. La semaine prochaine dans Soft Power, Club de la Presse, une sorte de bilan de la saison avec nos chroniqueurs et amis journalistes. Merci à tous d'avoir été nos invités ce dimanche. C'est la fin de cette tranche d'actualité et en direct. Culture, médias, international et numérique, l'influence créative, le soft power.
Vous écoutez France Culture.
1975, c'est l'année de la femme. Mado veut divorcer, la vie avec Gilles lui pèse. Elle étouffe dans son quotidien. Après tout, on parle volontiers de beau mariage. Pourquoi n'aurait-elle pas droit à un beau divorce ?
Avec baiser d'adieu et photos souvenirs devant le palais de justice, le divorce est une boucherie. Ça saigne, ça fait mal, ça laisse des cicatrices terribles.
Le beau divorce de Victoria Cahario, réalisation Louise Loubrieux. À découvrir sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Les éditions Radio France présentent
5e République, anatomie d'un régime en crise.
Un livre de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina.
Comment notre constitution a-t-elle évolué jusqu'à aujourd'hui? Peut-elle survivre à la crise politique actuelle? S'agit-il d'une impasse politique ou structurelle? En 45 questions, nous décryptons son histoire et son fonctionnement pour mieux comprendre.
5e République, anatomie d'un régime en crise de Thomas Negaroff.